Radicaux Libres. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libres, dont les derniers opus sont disponibles dans la page de l'émission Radicaux Libres sur le site radioalpa.com. On aurait pu vous parler cette semaine d'un homme, de 23 ans qui est mort à Lyon. Pour en savoir plus, on vous recommande le site contre-attaque.net de Nantes, qui décortique le truc, et qui permet d'en savoir un petit peu plus au-delà des mensonges dont on va parler juste après. On vous recommande également une vidéo de blast-info.fr avec un journaliste de rue 89 Lyon et bien sûr l'enquête du canard enchaîné de cette semaine. Cette semaine où l'information a été bien malmenée. Les pires défauts des chaînes d'info en continu et de la course au spectacle a permis à des figures de l'extrême droite de passer pour des parangons de vertu et de participer à l'inversion des valeurs qui fait de l'humanisme une saloperie à remplacer d'urgence par l'identité nationale et le culte de l'âge d'or où on était tous blancs, chrétiens et qu'on respectait nos parents. En boucle pendant 48 heures, les médias les plus regardés, écoutés et lus ont répété les éléments de langage de Némésis et compagnie. On peut également indiquer que quand ils avaient des informations qui n'allaient pas dans ce sens, eh bien ils les ont édulcorées. La palme revenant à TF1 qui a reçu deux vidéos d'une personne habitant à Lyon, là où l'altercation a eu lieu. Et dans les deux vidéos, on en voit une où on voit un groupe contre un autre groupe. Et la deuxième, on voit un groupe contre quelques-uns qui ont été abandonnés par leurs copains. Et ils ont gardé que la deuxième. Et du coup, ça a permis d'en rajouter à toutes les âneries que racontaient Némésis et compagnie. Alors depuis, la légende dorée de Quentin Durand s'est effondrée. La réalité des faits a rattrapé les délires héroïques portés par les médias devenus relais de la propagande d'extrême droite. Finalement, une rixe a remplacé le guet-apens. Et pire, le guet-apens, maintenant on le sait, est du côté des amis de Quentin Durand au début de la confrontation. Le 15 contre 1 également ne tient plus puisque les vidéos permettent de compter 16 FAF contre 13 Antifa, je fais confiance à ceux qui ont compté. Et pire, les trois qui se sont fait défoncer la tronche, dont un est mort, ont été abandonnés par leurs amis FAF qui étaient pourtant en surnombre et armés quand ils ont initié le guet-apens. Et également, la non-violence chrétienne d'un étudiant en mathématiques féru de philosophie a fait pchit quand sont sortis les noms des groupes auxquels Quentin Durand participait. L'Action française, déjà, est connue dans le coin et ailleurs pour n'être pas franchement les plus grands humanistes du monde et se mettent souvent à plusieurs pour tabasser des gens qui ne sont pas d'accord avec eux. Il aurait été l'un des fondateurs, apprend-on dans Le Figaro, des allobroges bourgoins. Eh bien, messieurs et mesdames du Figaro, sachez que les allobroges bourgoins font des petits saluts nazis régulièrement et ont dans leur valeur des choses qui ressemblent étrangement à ce qui a été porté par la France de Vichy et par les nazis pendant la période d'entre les années 30 et le milieu des années 40. Vous avez un très bon portrait des allobroges bourgoins sur le site streetpress.com. Idem pour les hommages comme celui du groupe Luminis, créé à Paris en 2020, qui nous permettent d'en savoir un peu plus puisque dans un tweet datant du week-end dernier, l'auteur Luminissant affirme que les derniers mots du jeune homme auraient été « Oh, remets ça !» je fais pas bien l'accent de l'agonisant. Et le même tweet affirme que la lutte à mort, c'est le kiff des Luminis et donc de Quentin Durand. Ouais. Mais pour ça, pour en savoir un peu plus, il aura fallu attendre que le baratin de Némésis et consorts ait fait le tour des plateaux. Cette semaine encore, le spectacle a pris le pas sur la réalité. Et comme disait l'autre, dans un monde réellement renversé, le vrai est un moment du faux. On se serait cru cette semaine pendant la guerre du Golfe en 1991. Souvenez-vous, l'Irak avait la troisième armée du monde. À Texto, c'était dans le Maine libre. Plus près de nous, durant l'affaire Tarnac en 2008, un certain David Pujadas, sur France 2 à l'époque, avait bidonné un certain nombre de trucs, affirmé des choses. Et puis finalement, le conditionnel prudent du début d'interview devenait systématiquement un présent de l'indicatif des plus affirmatifs. Justement, Évidemment, cette affaire Tarnac en 2008 n'a rien permis d'apprendre à ceux qui font de l'information, qu'elle soit en continu ou pas. Et même, on pourrait dire que ça ne s'est pas amélioré, hein, puisque à la manière d'un vulgaire barreau, ministre des Affaires étrangères, qui reprend une vidéo tronquée pour en faire quoi ? Pour en faire un instrument politique, on a eu le droit cette semaine à toute la récupération et l'instrumentalisation possible par la droite et l'extrême droite, et même par des gens qui se disent de gauche, comme Jérôme Gage. Eh bien, par pur intérêt politicien, on a eu ce genre de récupération, par pur intérêt économique, pour faire encore plus crapoteux que le voisin, on a eu ce genre de récupération dans les médias également. L'épisode là de ce jeune homme qui est mort à Lyon donne encore plus de puissance à l'extrême droite et même accroît sa légitimité. Un comble quand on sait que le discours porté est totalement mensonger. Alors souvenons-nous quand même, vu sur un tract, quelle est la différence entre les fascistes et les antifascistes ? Et là, ils ont fait deux colonnes. Fascistes, haine des homos, haine des étrangers, haine des juifs, haine des musulmans, haine des roms, haine des syndicalistes, haine du féminisme, haine de la liberté, de l'égalité, haine du progrès. Et en face, antifasciste, et il est indiqué sous une photographie, lutte contre ces connards et leurs idées puantes. Voilà, l'antifascisme, c'est l'autodéfense populaire face à la barbarie. On aurait pu vous parler d'un projet immobilier près du parking au camping-car, quai Louis Blanc, vers 15h30, samedi 14 février, 70 personnes mangent des crêpes en devisant autour de quelques tables devant un grillage où sont accrochées des photos et une banderole où on peut lire « Non au projet immobilier, non à la destruction de cet espace naturel ». Nous avons interrogé un membre du collectif de riverains qui s'oppose au projet immobilier pour en savoir plus. Pouvez-vous me dire pourquoi vous êtes aujourd'hui près du quai Louis Blanc, en l'occurrence samedi 14 février, devant un panneau qui indique « Non au projet immobilier, non à la destruction de cet espace naturel ».
En fait, on est ici parce que nous sommes des riverains, nous sommes une douzaine de riverains qui nous sommes montés en collectif pour se battre un petit peu contre ce projet, qui est le quatrième projet sur cette zone. C'est une zone de forêt, hein. Des gens appellent ça la petite forêt, ça fait 50 ans que c'est en l'état. Et pour la quatrième fois, il y a un projet supplémentaire qui vient pour construire des immeubles dans une zone qui n'est pas forcément adaptée à ça, contre un coteau, avec énormément de travaux à mener pour pouvoir stabiliser. Enfin, ça n'a pas vraiment de sens. Et il y a plein d'animaux qui vivent là depuis plus de 50 ans maintenant.
Le sens, il serait peut-être financier. Il y a une certaine pression sur le sol dans toutes les villes et une gentrification. On peut vendre relativement cher un appartement ou une maison dans une zone qui est proche du centre-ville.
C'est possible, mais là en l'occurrence il y a un projet qui est à la fois projet social et plutôt privé. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, construire ici c'est 4 fois certainement le prix d'un prix normal. Est-ce que ça a vraiment du sens pour pouvoir construire des logements qui sont, je dirais, sociaux, surtout que c'est contre un coteau. Il n'y a absolument aucun espace pour pouvoir y installer des jeux, pour y installer des espaces de détente. Pour ceux qui connaissent l'endroit, bah, on est contre la rue et ensuite c'est la Sarthe. Je dirais, quel est vraiment l'intérêt de venir entasser des gens à cet endroit-là à un prix hors de marché ? Ça n'a pas de sens.
Vous parlez d'entasser, on parle de combien de logements ?
Aujourd'hui, il y a 60 logements prévus ici. Allez, en l'état aujourd'hui, il y a 1800-2000 m² qui sont au sol en l'état utilisable. Maintenant, pour remonter sur la zone intégrale qui doit faire 4600 m², il faut remonter quasiment 10 mètres en hauteur le long des coteaux, les coteaux qui bordent la muraille du Mans, quoi.
Vous parlez d'une procédure, elle a été enclenchée par qui ?
Collectif des riverains, hein, voilà, on est plusieurs à s'être pourvus auprès du tribunal administratif de Nantes. Et la procédure suit son cours, on a une avocate qui est en charge de suivre le sujet.
Qu'est-ce que vous espérez de la réunion d'aujourd'hui ?
Déjà attirer l'attention, c'est le cas, il y a eu pas mal de gens qui sont passés. La thématique du collectif était même joyeuse, c'était des crêpes pour faire sauter le projet. Voilà.
L'objectif final, c'est qu'il n'y ait pas de projet immobilier et un peu garder cet espace naturel, un peu pour toujours, pourquoi pas changer le plan local d'urbanisme ?
Aujourd'hui, il y a énormément de suggestions et d'idées qui fusent autour de l'usage de cet endroit. Il y a un parking de camping-car qui est juste à côté. Est-ce que ce ne serait pas une aire de pique-nique ? Est-ce que ce ne serait pas un cheminement naturel qui rejoindrait la muraille ? Je veux dire, aujourd'hui, on a une ville qui n'est pas très loin de la nôtre, c'est Angers, qui pendant des années a eu des quais qui étaient vraiment dans un état un peu triste et qui depuis quelques années les a pris en main. Et aujourd'hui, c'est des véritables balades merveilleuses. Qu'est-ce qui ferait que Le Mans ne pourrait pas le faire ? Il n'y a pas un seul immeuble sur cette longueur. Pourquoi en rajouter un aujourd'hui ? Ça n'a pas vraiment de sens. Voilà.
C'est vrai que c'est pas véritablement 21e siècle quand on dit qu'il faut respecter les arbres, respecter les petits poumons verts au sein des villes pour éviter des surchauffes. Et là, il apparaît que bon, le projet immobilier étant le projet d'un privé, je ne sais pas si la mairie peut s'y opposer. En tout cas, elle a donné l'autorisation de construire en janvier 2025. Et de fait, si vous voulez en savoir encore un peu plus, eh bien, allez voir, vous pouvez les contacter pardon, sur poumonvert-poitevin, P-O-I-T-E-V-I-N, @mail.fr. poumonvert-poitevin@mail.fr. Et sinon, il existe également une pétition sur change.org. Change, c'est H-A-N-G-E. Oui, je cherchais plus loin, mais non. C'est H-A-N-G-E.org. Et vous tapez dans la barre de recherche Poumon Le Mans et vous allez tomber sur la pétition en question. On aurait pu également vous parler cette semaine du Parti des Honnêtes Gens de Bruno Retailleau. Vous vous souvenez de l'affiche, des affiches, la campagne d'affiches. Eh bien, François Fillon se désiste de son pourvoi en cassation. Le voilà donc définitivement condamné pour les emplois fictifs de sa femme et de ses enfants. On aurait pu également vous parler d'une alerte à la récupération. Mais on le fera la prochaine fois parce que là, on n'a plus trop le temps. Alors du coup, on en profite pour continuer à vous parler des municipales. Mais décidément, ça ne s'arrêtera donc jamais.
Je serai d'une détermination absolue. Et je ne céderai rien.
Tout ça n'empêche pas vivre là.
Que la commune n'est pas morte.
Que la commune n'est pas morte.
La date des élections se rapprochant et les débats divers et variés se multipliant dans les médias et à travers les réseaux sociaux, eh bien, il y a du dérapage. À Marseille, un débat réunissant plusieurs têtes de liste sur BFM TV a permis à Martine Vassal, tête de liste de la liste Marseille Je t'aime avec Martine Vassal, de développer ses valeurs et au milieu du mérite et de la solidarité, elle a quand même glissé dans l'ordre. Hein. Le travail, la famille et la patrie, donc la devise de l'État français, le nom officiel de la France entre 1940 et 1944. Martine Vassal, présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, candidate macroniste et de la droite au municipal de Marseille, revendique sa proximité avec les valeurs de la Révolution nationale de Pétain. Imaginez si elle s'assumait véritablement de droite, je ne sais pas ce qu'elle serait amenée à dire. À ce propos, Jean-Michel Aulas, autre candidat de droite soutenu par Wauquiez, lui c'est à Lyon, eh bien il demande à la mairie de Lyon d'afficher un portrait de Quentin Derenque sur la façade de la mairie. C'est pas con, hein, puisque carrément, il a eu le droit à une minute de silence à l'Assemblée nationale. Eh oui, un militant des Allobroges Bourgoins de l'Action française a le droit à une minute de silence. Ouais, il n'y a pas de problème. Alors pour Madame Yael Braun-Pivet, c'est problématique que quand les gens ne ressemblent pas à Quentin. Par exemple, quand ils défendent la Palestine. Mais par contre, là, t'as un bon gros militant d'extrême droite. Eh bien, je vais lui faire, il n'y a pas de souci, sa petite minute de silence. Donc, il demande Jean-Michel Aulas à la mairie d'afficher un portrait de Quentin Derenque sur la façade de la mairie en affirmant qu'il faut choisir son camp. Aïe. Connaissant le pédigré du militant tué par des ennemis politiques dans un combat de rue, on peut se demander si c'est le bon camp quand on se revendique démocrate, voire même républicain. Au Mans, les PS et ex-PS se rangent dans des listes différentes et on compte quelques transfuges, comme par exemple Agnès Bénard, adjointe à la culture du maire sortant, qui semble avoir trop mangé son chapeau pour rester sur sa liste. Elle a donc rejoint celle de Marietta Caramanli, dont on va parler incessamment sous peu, l'Union pour le Mans. Et puis, les listes apparaissent petit à petit. Il faut dire que les candidats ont jusqu'au jeudi 26 février pour les dépôts. La dernière fois, souvenez-vous, Simon Thomas, dans ce sens-là, de la coopérative Fréquence Commune, qui intervient auprès des listes et des municipalités souhaitant mettre une dose plus ou moins substantielle de démocratie dans leurs actions, c'est-à-dire une dose de décision de la population, plutôt que de faire tout reposer sur les élus comme le veut le modèle républicain. On ne vous conseillera jamais assez le bouquin de Bernard Manin sur le sujet, Principe du gouvernement représentatif, qui date de 30 ans déjà, oui, fin des années 90. Mais maintenant, il est encore d'une actualité brûlante. Principe du gouvernement représentatif de Bernard Manin. Et pour conclure, Simon Thomas de Fréquence Commune nous avait dit d'y aller, s'engager en politique. Et bien justement, il y en a qui s'y collent. Alors comment ça se passe? Eh bien souvenez-vous, il y a quelques semaines, nous avions réussi à demandé à des membres de la liste menée par le parti Révolution Permanente comment avait été désignée la tête de liste, comment avaient été désignés les membres de la liste et comment les habitants avaient été associés à la production du programme. On a réitéré le 4 février pour la liste menée par LFI. Bon, c'est pas qu'on veut pas voir les autres, mais il faut avouer que les réunions publiques ne sont pas légion. Alors, le mercredi 4 février, 250 personnes étaient présentes à la MPT Jean Moulin pour entendre Manuel Bompard, ancien du parti de gauche, maintenant coordinateur opérationnel de la France Insoumise. Je ne suis pas tout à fait sûr du titre, mais ça ressemble à ça. Et il y avait également Élise Boucher, députée de la 4e circonscription de la Sarthe et membre de LFI. Mais surtout, Maël Briand, la tête de liste LFI pour les municipales, qui d'ailleurs se présente lui-même.
Maël Briand, je suis candidat de la France Insoumise et de l'Union Populaire aux élections municipales au Mans.
Ah, c'était court, hein. Mais dans le son suivant, on en saura un petit peu plus sur cet ancien directeur du Secours Populaire de 34 ans. Eh ben, la question était, finalement, la tête de liste.
J'aurais voulu savoir comment avait été déterminée la liste elle-même et comment vous vous êtes retrouvé tête de liste.
Sur la détermination et l'ordonnancement de la liste, c'est un travail qui est toujours en cours parce que la liste reste ouverte jusqu'au moment du dépôt parce qu'on peut aussi rencontrer durant cette campagne, et c'est déjà arrivé, on le voit, des personnes qui souhaitent se joindre à la démarche. En soi, on a un vivier au niveau de la France Insoumise de candidates potentielles satisferaient tout à fait sur la liste. Mais en soi, on ne se coupe pas de la possibilité de pouvoir accueillir et faire la place à l'ouverture citoyenne puisque de fait, nous sommes une liste d'Union Populaire.
Et alors comment vous êtes devenu la tête de liste ?
Alors, le processus au sein de la France Insoumise, c'est que les groupes d'action, nous sommes organisés en groupes d'action sur cette ville, donc il y a plusieurs groupes d'action qui rassemblent les militants insoumis, voilà, il y en a 6. On organise ce que l'on appelle un inter-GA, c'est-à-dire une forme d'assemblée générale locale des Manceaux et des Mancelles, pour pouvoir discuter en matière de stratégie politique, ce qui nous semble être le mieux pour aborder les élections à chaque fois, que ce soit pour les législatives, les municipales. Ensuite, on établit une discussion qui permet à chaque personne de pouvoir se positionner et qui permet en même temps, par fonctionnement sociocratique, recueillir l'assentiment d'un certain nombre de personnes qui verraient un candidat ou une candidate qui potentiellement pourrait emmener, conduire cette liste. Moi, j'ai coordonné la relation avec les partenaires politiques, d'ailleurs de longue date. J'étais représentant du candidat Jean-Luc Mélenchon en 2022 sur le département pour pouvoir conduire les différentes tâches administratives. Ça fait un moment que je travaille dans cette ville et que je travaille cette ville. Il a semblé naturel pour un nombre conséquent de militants, à l'unanimité, que je puisse emmener cette liste. Donc la discussion s'est faite de façon tout à fait apaisée.
C'est donc l'assentiment de tous les présents qui a permis de désigner Maël Briand comme tête de liste en utilisant des règles sociocratiques. Ah oui, on en a déjà entendu parler de cette histoire de sociocratie. Pour en savoir plus sur le consentement, les cercles, le double lien, les élections sans candidat, la sociocratie quoi. Eh ben, on vous recommande la bonne vieille page Wikipédia qui vous emmène un petit peu plus loin quand vous avez envie. Bon bah d'accord, les règles sociocratiques sont à l'œuvre dans la désignation du candidat, mais les cercles n'étaient ouverts qu'aux militants de LFI. C'est tout de suite un peu plus réduit parce que l'ensemble des Manceaux et des Mancelles ne se réduit pas à LFI. La liste est une liste du parti. La tête de liste est du parti. La boussole démocratique de Action Commune déclare forfait. Mais on a quand même essayé d'en savoir plus sur les pratiques sociocratiques de la France Insoumise au Mans.
Vous parlez de pratiques sociocratiques, vous n'étiez pas candidat ?
Alors, ma candidature, moi, personnellement, n'était pas forcément une évidence, ni même pour moi, ni même pour la stratégie que nous avions retenue au départ, puisque nous souhaitions faire émerger une liste d'union de la gauche de rupture. Force est de constater que ça n'a pas été possible, puisque Marietta Caramanli souhaite absolument emmener cette liste dite d'union en la rangeant, en rangeant les partis politiques derrière sa décision de non-censure et son vote du budget. Bon. À partir du moment où nous avons compris l'affaire et où elle nous conduisait, on a fait le choix de partir sur un format d'Union Populaire, en laissant toujours la porte ouverte aux écologistes et aux communistes pour pouvoir faire vivre une ligne de rupture ensemble. Voilà. En tant que, qu'intervenant dans ces relations extérieures, j'ai essayé d'œuvrer à faire émerger cette liste d'Union et sans réclamer par ailleurs la tête de liste pour les Insoumis. La discussion pour la tête de liste des Insoumis est intervenue en octobre dernier, donc c'est vrai que c'est arrivé peut-être assez tardivement, mais je crois qu'au regard de la campagne dynamique que nous faisons, ça ne porte pas à conséquence. Mais initialement, je n'étais pas candidat.
La réponse a dérivé sur les relations entre les partis et finalement la place que prennent les luttes nationales et les luttes d'appareil dans les relations locales entre ces groupes politiques. Alors, quelle est la place de la population dans tout ça? On en reparlera quand les listes complètes seront dévoilées et qu'on saura qui est membre du parti, qui est de la société civile, comme on dit, etc. Et le programme alors? Eh bien, trois grandes priorités. L'école comme espace d'égalité réelle et d'excellence écologique, un bloc de gratuité qui concerne les transports en commun et les premiers mètres cubes d'eau consommés, notamment, et troisième point du programme, le logement. Voilà ce qui nous a été présenté par Maëlle Briand pendant cette soirée du 4 février. Mais du coup, nous, on lui a posé la question, mais alors le programme de qui émane-t-il? Maëlle Briand, tête de liste LFI au municipal pour Le Mans, nous répond.
À quel moment la population a été associée à la détermination des points que vous venez d'évoquer?
Alors, au long cours, parce que du coup, moi déjà, j'estime que les insoumis qui participent au travail programmatique sont des habitants. C'est la population aussi. Hein. Ça, moi, je ne l'oublie jamais. C'est pas parce qu'on appartient à un mouvement politique qu'on cesse d'être citoyen. Donc, de fait, le programme, lui, il est inspiré déjà d'un travail programmatique que nous avons fait au long cours en suivant les dernières années du mandat de Le Foll, que nous avons fait dans le prolongement de la démarche qui était la nôtre en 2020, donc vers le Mans commun et le Mans collectif citoyen. Donc, c'est un travail qui vient de loin, qui pose un diagnostic auquel, bien sûr, nos militants locaux ont été associés et ont été associés en priorité. Mais encore une fois, ils sont nombreux à connaître les réalités de leur quartier.
Et le reste de la population, ceux qui ne seraient pas encartés, est-ce que vous avez fait des opérations de « aller vers », comme on dit?
Oui, elles sont toujours en cours. Donc là, je vous ai présenté les trois grandes priorités qui sont des priorités qui nous éclatent aux yeux, évidemment. Mais en soi, il y a tout un travail fin qui est fait en ce moment par les militants. On est à peu près à 2000 porte-à-porte réalisés depuis le milieu du mois de décembre, où on recueille en fait l'avis de la population. Et de fait, dans le mandat, nous nous projetons sur l'instauration d'un référendum d'initiative citoyenne, sur le renforcement de conseils de quartier, en les rendant autonomes vis-à-vis de tout pouvoir politique. Parce que chaque personne qui a été associée au conseil de quartier aujourd'hui sait très bien que c'est... sous la tutelle directe du pouvoir le folliste. Donc en fait, c'est aussi une façon de pouvoir associer les habitants, non pas seulement dans la construction et la détermination du programme, mais dans l'ensemble du mandat.
Les militants locaux en priorité, voilà. Alors la pertinence des idées des LFistes n'est pas le propos, hein, mais ça fait un panel encore plutôt restreint. Donc du porte-à-porte, là, il a fallu en faire, il en fait, et ça permettra d'affiner le programme pour continuer à faire en sorte que ce programme soit démocratique, appliqué démocratiquement et pourquoi pas même que la population abonde à ce programme au cours du mandat. Eh bien, si LFI arrive au pouvoir municipal, il ne faudra pas oublier ce genre d'engagement à associer les habitants aux décisions durant l'ensemble du mandat. Et la liste L'Union pour le Mans, alors, composée des écologistes du parti Les Écologistes, des communistes du PCF et des membres du groupe Citoyens Écologistes et Solidaires, adossée à l'association Dessinons Ensemble l'Avenir, créée en 2018 et qui a porté la candidature de Marietta Caramanli en 2020. Et dernier élément de cet attelage, eh bien le collectif Fraternellement, créé lui après les législatives de 2024. Cette semaine, nous avons rencontré Samuel Guy, conseiller départemental du canton 1, qui est sur la liste menée par Marietta Caramanli. On l'écoute.
Bonjour, je suis Samuel Guy. Je suis chef de file des écologistes pour les élections municipales de 2026.
Vous n'allez pas le croire, nous lui avons posé les questions habituelles.
Comment a été désignée la tête de liste de la liste à laquelle vous participez?
Le process n'a pas tellement été de désigner d'abord une tête de liste, mais plus de mettre en place une démarche participative, citoyenne, et une démarche qui était à l'origine liée à la volonté de plusieurs forces politiques de travailler ensemble. Donc le premier élément, c'était une démarche d'union et trouver des points de convergence entre des partis de gauche, de l'écologie, avec l'élaboration d'éléments programmatiques qui nous tenaient à cœur chacun et de trouver les points de consensus, les points de rapprochement, d'effacer aussi ou de discuter des divergences éventuelles. et de mettre cette base-là en discussion avec d'autres organisations citoyennes et avec des citoyens, des personnes issues de la population, au cours de différents ateliers de travail et de réflexion donc, qui étaient basés sur les thématiques qu'on avait identifiées en amont. Du coup, la désignation de la tête de liste est vraiment un processus qui arrive en toute fin de démarche. On nous demandait quand est-ce que la tête de liste serait annoncée, mais ça nécessitait justement d'avoir ces éléments programmatiques, d'avoir un projet défini, et à l'issue de cela, d'identifier la personnalité qui était la plus à même de porter ces propositions programmatiques.
Qui a donc identifié cette personnalité ?
Par consensus, des personnes qui étaient représentées dans ce qu'on avait appelé un comité politique ou un comité décisionnel qui était constitué de représentants des différentes composantes. Il y avait trois organisations politiques, donc les écologistes, le Parti communiste et puis le groupe citoyen écologique solidaire. Il y avait deux organisations citoyennes, donc le collectif Fraternellement et l'association Dessinons l'avenir. C'était plus une démarche de consensus, en fait, plus que d'un mode d'élection ou d'un autre.
Oui, de consensus, mais là encore, on parle d'un entre-soi. À partir du moment où les partis politiques sont de la partie, difficile de faire autrement que de demander aux personnes encartées. Dans sa réponse, Samuel Guy parle de démarches participatives et citoyennes, mais dans le groupe déjà constitué. Il parle également d'un consensus, mais dans un périmètre là encore très restreint. Et pour la liste alors, eh bien, on écoute le chef de file du parti Les Écologistes pour les municipales 2026 au Mans.
Comment a été constituée la liste? Elle n'est peut-être pas tout à fait terminée, il faut plus de 50 candidats sur cette liste. Comment ont été déterminées les différentes personnes qui sont déjà sur la liste? Par qui et au niveau de leur rang dans cette liste, comment ça a été fait?
Les candidats ont été identifiés par chacune des composantes ou aussi par des personnalités qui ont émergé, qui ont entendu parler ou qui ont participé à nos réunions publiques. Pour ce qui concerne les partis politiques, chaque parti a amené des candidats soit parmi ses adhérents, soit également parmi ses sympathisants, militants ou des personnes qui partagent les mêmes valeurs sans forcément être adhérents à la structure et qui sont ce qu'on appelle nous des représentants de la société civile, donc qui ont un engagement souvent associatif, militant ou au sein de leur quartier. Un processus un peu peut-être par cooptation, mais un processus aussi lié au hasard des rencontres, aux belles rencontres que l'on fait, aux gens qui émettent à un moment donné le vœu ou le souhait de s'impliquer un peu plus dans la vie publique et puis qui trouvent dans notre projet, dans nos propositions, l'occasion à la fois de défendre la cause qui leur tient à cœur et en même temps de défendre l'intérêt général.
Et quand on parle de la place, du rang que peuvent avoir certains dans la liste, est-ce que là c'est l'objet de négociations? Est-ce que c'est un tirage au sort, une élection?
C'est une discussion entre les différents partenaires avec, encore une fois, pour nous, le rôle des partis politiques, il est important dans cette liste. On est élu pour faire de la politique, pour mener une politique municipale. Ça nécessite de connaître les codes aussi de fonctionnement d'une collectivité et donc d'avoir cette approche politique. Mais c'est important qu'il y ait un mix entre, je le disais, des personnalités politiques et des personnes moins politisées. Il y a une notion de rapport de force et d'équilibre des uns et des autres. Et après, il y a aussi une notion d'équilibre général de la liste et donc d'avoir une diversité, une représentativité de différents profils socio-économiques, les catégories socio-professionnelles ou les types de métiers, un équilibre entre les âges aussi, un équilibre avec les quartiers de la ville aussi pour que sur l'ensemble de la liste, mais répartie de manière à peu près équitable et équilibrée, chacun s'y retrouve parce que l'idée est aussi d'avoir une liste avec des candidats qui ressemblent et qui représentent vraiment les habitants et les habitantes du Mans.
Et en plus, il existe des contraintes légales, comme l'alternance dans la liste entre un homme et une femme, et inversement, si une femme est en tête de liste. Représenter la population, mais avant tout représenter les composantes politiques politiciennes de la liste. N'oublions pas l'enjeu des sénatoriales et la qualité de grands électeurs, comme on dit, des conseillers municipaux. Ça vaut le coup d'en avoir le plus possible. Alors, le programme de cette liste et comment les habitants y ont été associés, eh bien, nous verrons ça la prochaine fois. On va se quitter, mais avant cela, n'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur larnapé.info, larnapé, larnapé.info pour en savoir plus sur l'actualité militante dans le coin, ici et en Mayenne. Et puis également, n'hésitez pas à aller sur sarthe.demosphère.net pour savoir par exemple que le lundi 23 février, il y a une réunion du collectif O72 qui lutte contre quoi ? Contre les bassines. Oui, parce qu'il y a des bassines, il y en a qui veulent en faire dans le coin. Ça aura lieu à la Maison des Paysans-Paysannes, 16 avenue Georges Auric, 72 000 Le Mans, à 18h30, le lundi 23 février. Bon, ben, en attendant de se retrouver ici ou ailleurs, je vous dis tout simplement, allez, au revoir.